Accélérer les procédures d'asile, c'est l'intention affichée aujourd'hui par le département fédéral de justice et police avec l'ambition de créer des centres fédéraux pour les gérer, une annonce qui fait réagir, vous l'entendrez en ouverture de ce journal. Bernard Rapa, à nouveau devant la justice à Martigny, aujourd'hui le ministère public a requis une lourde peine complémentaire pour le chanvrier valaisan. Les finances grecques ne s'améliorent pas, l'Europe pourrait devoir de nouveau voler à son secours en 2012. Le harcèlement entre élèves par Facebook, un phénomène qui prend de l'ampleur. À Genève, un groupe spécifique a été créé et entend s'y attaquer. Quelques nuages demain, mais toujours du soleil bien présent et un thermomètre à 26 degrés. Les prévisions complètes pour la journée de demain et le reste de la semaine en fin de journal avec Carole Dubuis. Bonsoir à tous. Les procédures d'asile doivent aller beaucoup plus vite. La commission des institutions politiques du Conseil des États a soutenu hier à l'unanimité la proposition du département fédéral de justice et police de modifier les compétences entre cantons et confédérations. D'ici à 5 ans, 80% des procédures devraient être réalisées dans des centres fédéraux. Pour Denise Graff, spécialiste des questions d'asile auprès de la section suisse d'Amnesty International, il est important que les personnes vulnérables restent attribuées au canton. Elle l'a dit à Vincent Bourquin.
Amnesty International part de l'idée qu'un séjour dans des centres d'hébergement gérés par la Confédération, lorsqu'il s'agit d'un séjour prolongé, c'est pas une solution adéquate. Il faudrait qu'un certain nombre de personnes puissent être attribuées au canton, notamment par exemple les personnes traumatisées qui ne supportent pas le séjour dans de grands centres d'accueil, et puis aussi les personnes pour lesquelles des mesures d'instruction supplémentaires s'imposent et où la procédure d'asile risque de durer quand même plus longtemps. Et ces deux catégories de personnes, en tout cas, et puis aussi un certain nombre de personnes vulnérables, devraient absolument être attribuées au canton.
Bernard Rapa pourrait bien rester en prison 28 mois de plus. Le ministère public a en effet réclamé aujourd'hui une telle peine complémentaire devant le tribunal du 3e arrondissement pour le district de Martigny. Le chanvrier de Saxon, déjà condamné à 5 ans et 8 mois de prison pour des faits commis entre 1997 et 2001, comparaissait pour des délits intervenus entre 2002 et 2006, cette fois, accusé notamment de violations graves de la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d'argent ou encore de violations graves de la loi sur la circulation routière. Pour le procureur Jean-Pierre Gros, il y a donc matière à augmenter la facture.
Oui, parce que ça représente quand même 4 ou 5 ans d'activité illégale et 1 500 000 francs de chiffre d'affaires, c'est pas rien. On peut pas considérer que ça vaut zéro en termes de sanctions.
La défense de Bernard Rapa a dit que ce procès était illégal. Vous lui répondez quoi ?
Oh, c'est une querelle de procédure. Rapa aurait souhaité que son avant-dernier procès et son dernier procès soient jugés en même temps, comme il dit, c'est-à-dire qu'on joigne les deux causes. Les tribunaux en ont décidé autrement. Il y a eu deux jugements. Ça n'est en rien illégal. Et je suis pas certain que ça soit défavorable à M. Rapa.
Le procureur Jean-Pierre Gros avec Yves Terrani. On l'apprend ce soir, l'Union européenne a imposé un embargo sur les armes à la Syrie, où le gouvernement exerce une forte répression à l'encontre des manifestants depuis le début de l'insurrection en mars dernier. Les violences ont fait plusieurs centaines de morts. Dans un communiqué diffusé ce soir, l'Union européenne ajoute qu'elle interdit à 13 responsables gouvernementaux syriens de voyager à l'intérieur des 27 pays membres et que leurs avoirs sont gelés. Ces mesures entreront en vigueur dès demain, a annoncé l'Union européenne. Des enquêteurs des Nations Unies ont affirmé qu'il y avait au moins 68 corps dans une fosse commune récemment découverte sur un terrain de football d'Abidjan. C'est ce qu'a révélé aujourd'hui un responsable de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI. Et puis une plainte pénale a été déposée en Suisse contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo pour blanchiment d'argent. Selon l'avocat représentant les intérêts du nouveau régime sur le territoire helvétique, la missive a été envoyée le 29 mars au nom de la République de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre pakistanais a rejeté aujourd'hui les accusations absurdes d'éventuelles complicités officielles avec Oussama Ben Laden, mais a promis une enquête, tandis que les États-Unis refusaient de s'excuser pour le raid effectué sur le sol de leur allié. Dans un entretien à la chaîne de télévision CBS hier, le président américain avait demandé à Islamabad de diligenter une enquête sur les soutiens dont aurait bénéficié Ben Laden au Pakistan. Les Européens envisagent d'apporter une nouvelle aide à la Grèce en 2012 si le rythme des réformes ne s'accélère pas. Au bord de la faillite, la Grèce avait obtenu au printemps 2010 des prêts pour 110 milliards d'euros sur 3 ans de la part de l'Union Européenne et du FMI. Il était initialement prévu qu'Athènes retourne progressivement sur les marchés en 2012 pour se financer, mais les taux d'intérêt grecs restent extrêmement élevés et rendent difficile cette solution. Donc soit la Grèce rééchelonne sa dette, soit elle négocie un deuxième plan de soutien. Jean-Pierre Durand économiste à la banque Pictet, penche plutôt pour la deuxième solution, même si aucune des deux n'est idéale.
C'est ce qui rend la situation extrêmement compliquée. Une rallonge supplémentaire pour la Grèce fait craindre le pire, notamment auprès des contribuables des pays créanciers. On le voit avec ce qui se passe actuellement en Finlande. Donc le risque, c'est qu'on arrive non plus à une crise de l'endettement de la périphérie de la zone euro, mais vraiment à une crise de blocage politique au sein de l'Union européenne et vis-à-vis du projet d'union monétaire européenne.
Quelle serait la moins mauvaise solution ? Est-ce que ça serait une restructuration ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux d'ores et déjà faire une restructuration du coup ?
Le problème de la restructuration, c'est que c'est trop tôt dans le cas de la Grèce. C'est-à-dire qu'une restructuration, pour qu'elle soit efficace, devrait intervenir une fois que les comptes ont été en grande partie assainis. Et ce n'est pas encore le cas pour la Grèce aujourd'hui.
Des propos recueillis par Francesca Argirofo. Des survivants ont confirmé le naufrage en fin de semaine dernière d'un navire transportant 500 à 600 personnes près des côtes libyennes. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'Organisation internationale pour les migrations. Certains naufragés seraient parvenus à rejoindre la côte à la nage, mais aucun bilan sur le nombre de victimes n'a pu être établi. Michel Martin pourrait être libéré demain après 15 ans derrière les barreaux. L'ex-femme du pédophile Marc Dutroux, condamné en 2004 à 30 ans de réclusion, a obtenu une liberté conditionnelle. On saura aujourd'hui si le parquet se pourvoit en cassation d'une décision qui remue beaucoup de mauvais souvenirs en Belgique. Alain Franco.
Lors de son procès, Michèle Martin avait été décrite comme une femme fragile sous l'influence d'un mari violent et manipulateur, mais toutefois responsable de ses actes. Cette mère de trois enfants avait admis sa participation à plusieurs enlèvements de jeunes filles violées par son époux. Surtout, Michèle Martin avait laissé mourir de faim et de soif les petites Julie et Mélissa, emprisonnées dans la maison de Dutroux pendant que celui-ci était en prison. Pour toutes ces raisons, le jury l'avait condamnée à 30 ans d'emprisonnement. En tenant compte des années de préventive, Michèle Martin a donc effectué la moitié de sa peine. Son dossier de réinsertion est jugé suffisamment solide pour que le tribunal d'application des peines lui accorde une liberté conditionnelle. De bonnes sources, on indique qu'à 51 ans, elle trouverait refuge dans un couvent en France. Sauf que le parquet a jusqu'à cet après-midi pour se pourvoir en cassation. Une décision très attendue dans un pays où le sort des ex-époux Dutroux met encore la Belgique en émoi 16 ans après les fêtes. Alain Franco, Radio Suisse Romande de Bruxelles.
La décision du parquet interviendra donc demain. Pour la première fois depuis plus de 50 ans, les Cubains vont avoir l'autorisation de voyager à l'étranger, mais les conditions autorisant la sortie de l'île restent encore à définir dans le cadre des réformes lancées par le président Raúl Castro. C'est une information de notre service multimédia. À Genève, un groupe de travail vient de voir le jour au département de l'instruction publique pour s'attaquer au harcèlement entre élèves sur Facebook. Un phénomène en hausse dans les écoles du canton, c'est ce qu'a constaté Sébastien Gendre, chef de projet à Action Innocence, association qui fait de la prévention Internet en milieu scolaire.
Dans les dernières semaines, plusieurs cas sont présentés à nous. Là, il s'agit par exemple d'un cas en Romandie, à Genève, où on se rend compte que voilà, d'une école à l'autre, des jeunes gens issus soit des dernières années de l'école primaire, soit des premières années du cycle d'orientation se parlent, le ton monte, la discussion hausse et on insulte, on menace. Puis on aboutit à des résultats comme par exemple l'organisation de batailles rangées, 10 contre 10 dans un préau d'école à l'heure de la sortie. Finalement là on a des règlements de compte, c'est-à-dire que voilà, on s'est insulté sur Facebook, on vient régler nos comptes dans la réalité. Puis ça aboutit, voilà, le cas extrême dont on a eu connaissance, là sont effectivement des jeunes qui tout d'un coup passent la barrière de nouveau du numérique et vont menacer des adultes, pour le coup les parents d'un des jeunes impliqués dans cette histoire-là vont les menacer directement à la maison.
Sébastien Gendre qui répondait à Yann Amedro. Le coureur cycliste belge Wouter Weiland a fait une chute mortelle aujourd'hui dans la troisième étape du Giro, le Tour d'Italie. Âgé de 26 ans, il est tombé alors qu'il roulait à vive allure dans une descente à une vingtaine de kilomètres de la ligne d'arrivée. Au championnat du monde de hockey sur glace en Slovaquie, la Suisse gagne. Tout en perdant, les Helvètes sont éliminés de la compétition après avoir pourtant remporté leur dernier match 5-3 contre les États-Unis. Du côté des marchés financiers, à Zurich, la bourse suisse a entamé la semaine en net repli. L'indice SMI a perdu aujourd'hui 0,76%. Par contre, à Wall Street, la bourse américaine finit en hausse. Le Dow Jones est à 0,36% de plus et le Nasdaq gagne 0,55%. Et la météo, elle gagne la présence de Carole Dubuis.
La journée a été ensoleillée et chaude. Demain en pleine, quelques voiles d'altitude rendront le soleil plus avare, mais il nous tiendra compagnie jusqu'au soir. Ce beau temps sera escorté par un mercure qui gagnera les 26 degrés en pleine. Du côté de la montagne, on rencontrera plus de cumulus qu'aujourd'hui, ce qui créera en fin de journée une possibilité d'averses orageuses. Un vent faible à modéré de secteur nord-ouest habitera la montagne. L'isotherme du 0 degré se situera, lui, à 3300 mètres. Mercredi, même topo, encore du soleil en pleine, de plus en plus de cumulus en montagne, ce qui provoquera des averses et des orages isolés. Ce temps pourrait, à certains endroits, déborder sur les régions de plaine, selon Météo Suisse. Jeudi, le soleil sera censuré par les nuages qui recouvriront toute la Suisse romande. Des averses rinceront le plateau assez fréquemment, elles seront plus timides en Valais. Le thermomètre s'abaissera à 20 degrés. On perdra plusieurs autres degrés jusqu'au week-end qui s'annonce pluvieux.
La météo offerte par les cafés La Semeuse et leur boutique en ligne lasemeuse.ch.
Le mot du soir sur la ligne de cœur, eh bien ce soir c'est saute-ruisseau, un saute-ruisseau. Ah, le saute-ruisseau, ça c'est quelqu'un... Bon, son avenir est compromis au saute-ruisseau. Le saute-ruisseau, c'est un jeune clerc chargé des courses dans une étude de notaire ou dévoué. Vous savez, à l'époque où il n'y avait pas de coursier, il n'y avait pas des mails et tout ça, donc il fallait que quelqu'un porte les plis, les billets de vous, tout ça. Alors hop, on avait comme ça des espèces de factotums, nous dirons-nous, qui comme ça couraient à travers la ville. Il n'y avait peut-être pas encore de vélo, andrésienne peut-être, et puis ils allaient apporter souvent des mauvaises nouvelles, ou alors des contrats mirifiques. « Madame, mademoiselle, votre fille va s'épouser. » Épouser monsieur, voici la dot. Ça passant par de terre, ça devait être charmant à souhait. Par exemple, chez Baudelaire, dans un poème en prose, il disait « Le saute-ruisseau d'un directeur de journal réclame la suite du manuscrit. » Alors vous allez dire « Directeur de journal, ça n'a rien à voir avec une étude de notaire. » Non, mais c'était par dérive et par extension. Voilà, c'était devenu ce terme. Alors nous, par extension, comme des saute-ruisseaux, il n'y en a plus guère. De nos jours, il y a des coursiers maintenant, et encore, la voie est en disparition. Et quoique, on en voit, ils sont très musclés.